France Musique. Bonjour à vous, bienvenue sur France Musique, cette radio qui vous est chère. C'est incroyable comme le temps passe vite, nous sommes déjà le 16 juin. Et voici un Musique Matin qui va vous réjouir grâce à Jean-Baptiste Urbain, avec vous jusqu'à 9h.
Mais oui, on l'espère, bonjour à tous. Et merci d'avoir choisi France Musique, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Avec son violoncelle vénitien, elle vient d'enregistrer Vivaldi, mais aussi un disque brésilien avec le chanteur Toquinho. Qu'est-ce qui fait courir Ophélie Gaillard, la violoncelliste, et notre invité. Rendez-vous à 9h moins le quart. La colère des compositrices de musique de film, une colère qui concerne l'absence de femmes, nommée au prix de l'Union des compositeurs de musique de film. C'est le programme de Classique Info, c'est avec Sophie Anastasio et c'est dans 40 minutes. Au sommaire du journal d'Olivier Denré, à 8h30, un système de soins défaillant et des règles de distanciation physique peu ou mal respectées, l'Inde est en train de se reconfiner pour tenter d'endiguer une nouvelle vague de contagion du coronavirus. Et puis, quand des avocats bénévoles de toute la France se regroupent en association pour aider les artistes jeunes et précaires, ça s'appelle le Barreau des Arts. Suzanne Gervais nous en parle, sa chronique, c'est dans 25 minutes.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique et entrée dans la danse, voici Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, la toccata extraite des 6 études opus 111. C'est une adaptation du final du 5e concerto pour piano du compositeur. Il l'écrit d'ailleurs en Égypte, à Louxor, d'où son titre l'Égyptien. Et c'était la toute jeune Marie-Ange Gussy au piano, brillantissime. Vous venez de l'entendre, elle a 21 ans. Elle sera à l'affiche cet été du Festival de piano de Biarritz. Il aura bien lieu du 3 au 11 août. Marie-Ange Gussy également sur la scène en plein air de la Roque d'Anthéron. Là, ce sera le 11 août. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir, se mirer. Voilà ce que les yeux d'Elsa Triolet, inspirent à Louis Aragon en 1942 avec ce recueil Les yeux d'Elsa. Le poète entame un long cycle autour de l'amour de sa vie, sa muse qui lui donne, selon ses mots, les pleins pouvoirs. Mais Elsa Triolet n'est pas qu'une muse, c'est avant tout une femme de lettres, première femme à avoir obtenu le prix Goncourt en 1944 pour le premier accro, coût de 200 francs. Les yeux d'Elsa Triolet se sont définitivement refermés il y a tout juste 50 ans, le 16 juin 1970 à Saint-Arnoux. Aragon la suivra 12 ans plus tard. C'est à elle, Elsa, que Louis Aragon adresse cet autre poème écrit, lui, en 1943, un poème sur l'amour, cet inaccessible absolu, mis en musique par Georges Brassens et ici interprété par qui, tiens?
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir désarmés, incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, lui cela sans savoir nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Aragon, mis en musique par Georges Brassens, il n'y a pas d'amour heureux. Et chanté ici, on ne la reconnaît pas forcément, par la jeune Barbara. Et oui, en 1960, elle avait 30 ans. 8h09, France Musique, le festival d'Aix n'aura pas lieu cet été, en tout cas pas comme d'habitude, mais le grand rendez-vous de l'art lyrique va vivre malgré tout, grâce à France Musique d'ailleurs. Pendant plusieurs soirées en juillet, nous allons diffuser certaines grandes productions aixoises. Et puis Aix va exister via une scène numérique, ça a été annoncé hier, ce sera du 6 au 15 juillet avec des rendez-vous tout au long de la journée. L'édition 2020 n'est pas annulée, elle est simplement empêchée, précise d'ailleurs le festival. Il y a d'ailleurs quelques concerts et récitals à voir et à écouter via le web et via nos ondes. Et parmi les grandes soirées lyriques de ces dernières saisons, le Don Giovanni de Mozart dans la production de Dmitri Tcherniakov. Don Giovanni où là non plus il n'y a pas d'amour heureux. Un son de théâtre qui nous manque tant, Mozart, l'ouverture de Don Giovanni, dans la lecture tout sauf neutre de Theodor Kurenzis à la tête de son ensemble Musica Eterna. France Musique 8h15, comme tous les jours, c'est notre rendez-vous avec les voix de France Musique et parmi les voix de l'été, celle de Max Dosolm. Il sera aux commandes de certains étés classiques ainsi que de Classique Info dans Musique Matin l'été. Et c'est lui qui a donc choisi pour nous, aujourd'hui, une musique.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. La musique que je voulais partager avec vous ce matin est le fruit d'un souvenir. Ce souvenir, c'est tout simplement celui du dernier concert que j'ai eu la chance d'entendre avant le confinement. C'était le 12 mars dernier, Salle Gaveau à Paris. Ce soir-là, le contre-ténor Andreas Scholl et le luthiste Edin Karamazov proposaient un récital où se mêlaient des airs baroques et traditionnels anglo-saxons. Alors, Andreas Scholl et Edin Karamazov, les deux musiciens sont chevronnés, ils se connaissent très bien, ils ont même enregistré plusieurs disques ensemble, dans ce répertoire notamment, mais rien n'aurait pu prédire la beauté de ce récital. Et au programme de ce concert, quelque peu crépusculaire évidemment, il y avait un air traditionnel irlandais qui résonnait particulièrement. I'm a poor wayfaring stranger. Je suis un pauvre vagabond. Je suis un pauvre vagabond qui traverse ce monde de larmes. Mais il n'y a ni maladie, ni labeur, ni danger dans ce monde éclatant où je me rends. Cet air irlandais, Andreas Scholl et Edin Karamazov l'avaient enregistré en public, c'était en 2001, et c'est cette version que je voulais partager avec vous ce matin, car j'espère de tout cœur, et comme vous, je l'imagine, que les concerts publics reviendront très vite, que la maladie, le labeur et le danger seront bientôt derrière nous, afin que l'on puisse retrouver demain cette joie toute particulière que seuls les concerts peuvent produire. I'm a poor wayfaring stranger, Andreas Scholl est ce pauvre vagabond, et dans ce voyage, il est accompagné par le luth d'Edin Karamazov et l'orchestre de chambre Orpheus.
There's no sickness, toil, nor danger in that bright world to which I go. Such it made me when I heart soon be free from every trial. My body sleep in the churchyard. I'll drop the cross of self-denial and enter on my great reward. I'm going there to see my Savior, to sing His praise forevermore. I'm only going over Jordan. I'm only going over home.
Pour un réveil tout doux, I'm a poor wayfaring stranger, je suis un pauvre vagabond. Musique traditionnelle anglaise, on connaissait la version d'Alfred Deller, et moi je découvre ici celle d'Andrea Scholl, le luth d'Edin Karamazov et l'orchestre de chambre Orpheus, le choix ce matin de Max Dosholm. On le retrouve, Max, cet été sur notre antenne. Notre antenne, c'est France Musique. Il est 8h22, l'heure de la douche peut-être. Personne, absolument personne, ne sera admis dans le cinéma après le début d'une séance de psychose. Pas même le frère du réalisateur, le président des États-Unis ou la reine d'Angleterre. Dieu la bénisse. Voilà ce qui est écrit ce 16 juin 1960 sur une pancarte à l'effigie d'Alfred Hitchcock pour la sortie de ce film. Un coup de pub génial du cinéaste et de la Paramount. Psychose donc arrivée sur les écrans américains il y a 60 ans tout juste, et une musique de Bernard Herrmann ici interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles dirigé par Esa-Pekka Salonen. Musique qui immédiatement fait voir différemment sa salle de bain. France Musique, 8h24, toute fraîche sortie de la douche, voici Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, je peux vous assurer que j'ai eu des sueurs froides. Bonjour à tous.
Tout va bien. Un petit tour ce matin. Du côté des avocats, plusieurs d'entre eux à Paris ont lancé une initiative solidaire envers les artistes.
Oui, magnifique initiative. De jeunes avocats parisiens, Lucie et Corentin, spécialisés en propriété intellectuelle, viennent de créer le Barreau des Arts, une association qui offre des conseils juridiques gratuits par téléphone aux artistes français, jeunes ou précaires, mais les deux vont hélas souvent ensemble. ensemble. Depuis quelques jours, le Barreau des Arts rassemble donc une trentaine d'avocats professionnels bénévoles. Et ce n'est qu'un début. Ce tout jeune projet qui veut réaffirmer la dimension sociale de la profession d'avocat est né de plusieurs constats. Déjà à l'évidence, les artistes, musiciens, danseurs, comédiens, graphistes, photographes connaissent mal, voire pas du tout leurs droits, lâchés qu'ils sont dans un monde professionnel ultra concurrentiel où les employeurs prennent rarement la peine de les leur rappeler, voire dans bien des cas de les respecter. Il faut dire que le droit d'auteur est complexe et que les écoles d'art et les conservatoires fournissent peu de billes juridiques aux futurs professionnels. Et puis quand on est artiste, en 2020, on doit déjà faire beaucoup, en plus de sa pratique artistique, sa communication, son administration, sa comptabilité et j'en passe. La demande de conseil juridique est donc énorme chez les artistes. En moins d'une semaine, le Barreau des Arts a reçu déjà une quinzaine de demandes, dont celle, pour vous donner un petit exemple, d'une photographe de 20 ans qui a travaillé en stage pour un grand magazine national, magazine qui a publié ses photos à répétition sans jamais la créditer. La jeune artiste était démunie, elle avait peur que sa réputation soit grillée. Les conseils de l'avocate qu'elle a eu au téléphone lui ont permis de rééquilibrer le rapport de force. Les deux fondateurs du Barreau des Arts se sont inspirés de ce qui se fait dans le monde anglo-saxon, à Sydney, en Australie, au Canada, à New York aussi. Il existe des initiatives similaires envers les artistes. Le site www.barreaudesarts.fr propose un simulateur pour voir si vous entrez dans les critères d'éligibilité pour bénéficier de conseils juridiques gratuits. N'hésitez pas à aller faire un tour. L'association aimerait aussi faciliter l'accès aux droits aux étudiants des conservatoires et des écoles d'art. Bravo donc à ces jeunes juristes pour cette initiative plus que nécessaire et inédite en France.
Le tout nouveau Barreau des Arts qu'on peut aussi suivre sur Facebook et sur Instagram. Suzanne Gervais, merci, à demain.
À demain.
Voici non pas un avocat mais une avocate. C'est une opérette créée à Liège en 1917 par le compositeur Hippolyte Ackermans. Il en a tiré une grande fantaisie. En voici le début avec le Tivoli Band. Le début de la grande fantaisie sur l'opérette L'avocate d'Hippolyte Ackermans, le Tivoli Band dirigé par Eric Matteau.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Quand elle ne dirige pas de son violoncelle des concertos de Vivaldi, Ophélie Gaillard se frotte à la musique brésilienne de Gabriel Sivac et du chanteur et guitariste Toquinho. Deux disques parus cette année, Ophélie Gaillard sera en ligne avec nous dans un quart d'heure. C'est notre invitée ce matin. Et puis la colère des compositrices, une seule femme figure parmi les 28 nommées pour la récompense de l'Union des compositeurs de musique de film. On y revient dans une poignée de minutes avec Sophie Anastasio dans Classique Info. Mais pour l'heure, France Musique, il est mais pile 8h30. Le journal Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Des actions dans toute la France et un grand rassemblement à Paris devant le ministère de la Santé. Le cortège a ensuite prévu de marcher jusqu'aux Invalides. 11 organisations, des syndicats comme des collectifs, comptent aujourd'hui sur le soutien de la population pour exiger une revalorisation substantielle des salaires des professionnels de la santé, ces femmes et ces hommes présentés comme des héros par le pouvoir politique pendant toute la crise sanitaire. Depuis, l'exécutif a lancé ce qu'il appelle le Ségur de la Santé, piloté, on le sait, par Nicole Nota, l'ancienne patronne de la CFDT. La concertation entre dans sa quatrième semaine et pour l'instant, arrache les gueules. Les discussions n'ont pas vraiment avancé.
Depuis le départ, les syndicats veulent négocier avec le gouvernement et reprochent à Nicole Nota de n'être, comme elle le dit, que l'animatrice des débats. Elle écoute, mais n'a pas de proposition chiffrée dans son escarcelle. Conséquence, vendredi dernier, les organisations ont exigé de voir Olivier Véran, Christophe Prudhomme de la CGT.
Le ministre doit venir avec un plan d'urgence chiffré, qui ne peut pas être inférieur à 15 milliards d'euros, au regard de ce qui a été proposé pour l'industrie aéronautique. Air France, c'est 40 000 emplois, 7 milliards d'euros pour Air France. Voilà, l'hôpital, les EHPAD, le médico-social, ce sont quasiment 2 millions de salariés qui produisent. Nous ne sommes pas un coût pour la nation, ce secteur.
Un secteur dont les salaires trop peu attractifs doivent augmenter de 300 euros net, martèlent les syndicats, et qui doit embaucher d'urgence. C'est un mot d'ordre commun, mais que le Ségur n'a pas entendu. Le syndicat Sud Solidarité en a donc claqué la porte, comme l'explique son négociateur Christophe Geffray.
On n'est pas parti pour arrêter de négocier, on est parti justement parce qu'on veut négocier. Mais là, en face de nous, on n'a pas des négociateurs. On a des gens qui font comme si on était leurs adjoints à qui on doit fournir des fiches, voyez, pour qu'ils décident. C'est pas des négociations, ça.
L'heure est donc aujourd'hui à la mobilisation dans la rue.
32 députés font désormais officiellement partie de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire, une crise qui a fait plus de 29 000 morts dans notre pays. Les élus vont auditionner ce soir le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. La question des masques et des tests, les EHPAD, les frontières et toutes les privations de liberté alimenteront les débats. Le travail de la commission devrait durer jusqu'à la fin de cette année. La clé d'étranglement doit être utilisée avec discernement, précision signée dans une note interne du directeur général de la police nationale. Cette méthode d'interpellation sera donc toujours en vigueur, au moins jusqu'au mois de septembre, contrairement à ce qu'avait annoncé la semaine dernière Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. De la prison ferme pour 6 hommes, des proches d'Edouard Balladur, jugés dans le volet financier de l'affaire Karachi. Ils sont condamnés pour leur rôle dans un système de commission occulte lié à des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Une grande partie de cet argent a permis de financer la campagne présidentielle de 95 de l'ancien Premier ministre, lequel sera bientôt poursuivi par la Cour de justice de la République. Et puis on connaîtra dans la matinée le jugement dans l'affaire des kits de campagne du Front National. Dans ce dossier, l'État réclame 11 600 000 euros de dommages et intérêts au FN et à ses co-prévenus accusés d'escroquerie pour avoir détourné les règles électorales. S'il est élu maire du Havre le 28 juin prochain, Édouard Philippe n'a pas l'intention d'abandonner son poste de Premier ministre. Le chef du gouvernement le dit ce matin à nos confrères de Paris Normandie, tout en précisant tout de même qu'il pourrait revenir plus tôt si le chef de l'État décide de nommer quelqu'un d'autre à Matignon. Et puis à propos des municipales, sachez que le second tour est reporté à plus tard en Guyane à cause de l'épidémie de Covid-19. Alors que l'Europe est en train d'ouvrir ses frontières intérieures, l'Inde décide de revenir en arrière. Le pays met ainsi fin au déconfinement lancé au début du mois. L'épidémie de coronavirus ne faiblit pas, bien au contraire. Les médias révèlent que de nombreux malades décèdent parce qu'ils ont été refusés dans les hôpitaux, faute de lits. La contagion est particulièrement virulente dans les grandes villes comme New Delhi. Sur place, un reportage de Sébastien Farcy, le correspondant de RFI.
Les ambulances entrent en trombe dans Loknayak Jayaprakash, le plus grand hôpital public de New Delhi dédié au Covid-19. Sumita Sampal, un foulard bleu en guise de masque, est inquiète. Cela fait 10 jours que son mari a été hospitalisé, mais il n'a toujours pas les résultats de son test de Covid. Il avait la dengue, mais il suspectait aussi le Covid, dit-elle. Maintenant, il est enfermé dans cet hôpital et il me dit qu'il voit des cadavres de patients abandonnés. Je veux qu'il sorte, car s'il n'a pas déjà le Covid, il va l'attraper. Officiellement, seulement 40% des 2000 lits de l'hôpital sont occupés. Mais cette crise a créé de nouveaux problèmes, reconnaît Ritu Saxena, la coordinatrice de l'hôpital pour le Covid-19.
Nous avons besoin de personnel, dit-elle, car avant, les familles des patients s'occupaient de leurs besoins quotidiens. Maintenant, on ne peut pas les laisser entrer, donc nous nous occupons de tout. Pour l'instant, la situation est sous contrôle, mais cela peut vite changer si des milliers arrivent chaque jour, comme on s'y attend.
Les autorités estiment que le nombre de cas doublera en 2 semaines dans la capitale et prévoient de convertir des trains, des hôtels et des salles de mariage en hôpitaux de fortune.
Du soleil sur les bords de la Méditerranée et sur la Corse, quelques belles éclaircies sur la région lyonnaise. Partout ailleurs, les nuages et les averses domineront avec des orages sur une partie de la façade atlantique. Les températures de 13 à 18 degrés ce matin, de 17 à 26 degrés cet après-midi. Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré que l'on retrouve demain à 8h30.
À demain matin.
Viens le guerrier victorieux, viens te réjouir avec nous. En italien, ça donne ça. Aïda, bien sûr, extrait d'Aïda de Verdi, le chœur Arnold Schoenberg, l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Nikolaos Arnoncourt. Les cinémas rouvrent et l'opéra au cinéma est donc de retour avec Aïda, mise en scène par Shirin Neshat, Anna Netrebko dans le rôle titre, l'orchestre philharmonique de Vienne toujours, mais sous la direction de Riccardo Muti. Ce sera dans les cinémas UGC les 25 juin et 2 juillet. France Musique, il est 8h39, c'est l'heure déjà de Classique Info. Avec Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
Allez, on commence avec une question. Et les spectacles, c'est pour quand ?
C'est à lire dans Le Parisien, une soupe de grimaces au lendemain de l'allocution du chef de l'État qui n'a pas dit un mot sur la culture. Les transports en commun ont repris, les lieux de culte ont rouvert, les bars, les restaurants, mais nous, non, souligne auprès de l'AFP Aurélie Andouche du syndicat des musiques actuelles. Elle ajoute, on voudrait que le président et le gouvernement comprennent que pour ouvrir les salles au 1er septembre, ça nécessite un peu de temps. Le secteur de la musique enregistrée en France annonce quant à lui une chute prévue de 21% du chiffre d'affaires du secteur, avec les l'effondrement de la vente de disques pendant la crise sanitaire.
Et vous nous parlez d'un autre mouvement de colère ce matin.
8 catégories, 28 noms et une seule femme nommée, l'Islandaise Hildur Gunnadóttir. C'est le palmarès de l'édition 2020 du prix de l'Union des compositeurs de musique de film. Un groupe de compositrices a fait savoir son indignation dans un communiqué. Les 27 signataires rappellent l'importance de la question de la représentation des femmes et des inégalités qui en découlent.
La vocaliste Leila Martial lance un appel pour une écologie de la musique vivante.
Un appel qui rassemble de nombreux signataires issus du jazz. L'écologie ne doit plus être considérée comme un label de bien-pensance, mais une pratique collective et un engagement politique, peut-on lire dans ce texte. Il appelle à transformer les usages du métier pour changer de modèle et s'inscrire dans une vision à long terme, avec des propositions pratiques, cesser de se déplacer en avion pour des dates isolées, stopper le recours aux vols intérieurs ou encore revaloriser le statut des artistes engagés et impliqués localement. Ce document sera publié tout à l'heure à midi sur le site de grand format et sur une page Facebook dédiée.
On mettra le lien sur la page de Classique Info sur francemusique.fr. Et on termine, Sophia, par un focus sur les absolutistes.
Et oui, les absolutistes, c'est le nom pour désigner les individus dotés de l'oreille absolue. Moins d'une personne sur 10 000 est capable d'identifier les notes exactes qui composent un son, peut-on lire dans La Croix qui consacre ce matin un dossier. À la fois génétique et acquise par l'apprentissage, on apprend notamment que l'oreille absolue est liée à une asymétrie très marquée entre le lobe temporel gauche et le lobe temporal droit. L'essentiel se passe donc dans le cerveau.
À lire donc dans La Croix, Classique Info, Sophie Anastasio, donc sur francemusique.fr également. Et c'est dans la rubrique Actualité musicale. Sophia, à demain.
À demain.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Vous allez l'adorer.
Dans quelques minutes, notre invitée sera Ophélie Gaillard. Sur son dernier disque, la violoncelliste dirige de son instrument vénitien son Pulcinella Orchestra. Vivaldi est au programme. Alors, c'est pas la première fois qu'elle enregistre, mais elle ne s'en lasse pas, et nous non plus, dans les couleurs, les lumières et les ombres de ses partitions. C'est le titre d'ailleurs de cet album, Les couleurs de l'ombre, toutes ces lumières sont infinies.
Thank you.
Vivaldi, le final de ce concerto pour violoncelle piccolo en sol majeur, le Pulcinella Orchestra dirigé de son instrument par Ophélie Gaillard. C'est un disque paru il y a quelques semaines maintenant, juste au moment du confinement, chez Aparté. Ophélie Gaillard, qui, justement, ça tombe bien, à notre invité ce matin.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Ophélie Gaillard.
Bonjour.
Ce n'est pas la première fois que vous enregistrez Vivaldi, mais on ne s'en lasse pas, vous ne vous en lassez pas non plus. L'album s'intitule I colori dell'ombra, même si on n'a pas fait beaucoup d'italien, on peut traduire ça par les couleurs de l'ombre, c'est ça?
Ah oui, absolument.
C'est quelle couleur, par exemple, ce mouvement qu'on vient d'écouter pour vous, quand vous le jouez? Vous voyez des couleurs?
C'est très chatoyant. Quand Vivaldi écrit pour le violoncelle, il y a vraiment un festival de couleurs, de timbres. Il y a une richesse expressive qui est assez incroyable. Et parfois aussi dans la mélancolie. Là, c'est pas le cas dans ce mouvement sol majeur qui est très très lumineux comme le ciel ce matin. Là d'où je suis, en tout cas. Mais il y a beaucoup de contrastes et de profondeur aussi dans sa musique pour violoncelle, et particulièrement dans ses concertos qui sont tous très très différents.
Là ici, vous jouiez un violoncelle piccolo. C'est quoi un violoncelle piccolo, un plus petit, hein?
Oh ben, il me fallait plus que 4 cordes. Alors il n'est pas tellement plus petit. Il a surtout 5 cordes. C'est une chance incroyable de voir la tessiture du violon avec la corde de mi, la chanterelle de mi, et puis quand même le grave du violoncelle. Donc c'est une sorte de pont entre les aigus du violon et puis les graves du violoncelle. Et ça permet en fait d'avoir une légèreté et un côté très aérien dans la tessiture aiguë, et donc de chanter selon évidemment ce que Vivaldi écrit, parce qu'il sait très bien, c'est vraiment un orchestrateur de génie, hein, et donc il sait très bien se servir du timbre de chaque instrument et de sa particularité. En l'occurrence, là, c'est vrai que ça donne une sorte de... On a l'impression d'être un peu en apesanteur quand on joue du piccolo.
C'est aussi un album joué Vivaldi, Ophélie Gaillard, qui rend honneur à votre instrument, le Francesco Goffrieder, c'est comme ça qu'on prononce?
Oui, absolument. Ben, c'est vraiment une basse vénitienne.
Un vieux vénitien.
Voilà. Dans la grande tradition, la lutherie vénitienne de ce début du XVIIIe siècle, qui est inégalée à ce jour, et qui aussi justement révèle cette profondeur de timbre. Il y a une sorte d'adéquation incroyable entre la musique écrite Vivaldi pour le violoncelle, qui est quand même assez nouveau, hein, de consacrer autant de concertos solistiques à cet instrument qui était encore relativement dévolu à l'accompagnement quand même dans les années 1730, même si l'Italie a anticipé l'émancipation du violoncelle, les heures de gloire sont encore à venir pour cet instrument. Et donc il y a vraiment aussi une impression de laboratoire de recherche pour rendre justice à toutes les capacités à la fois d'expression et en même temps de virtuosité, parce qu'évidemment c'est d'une virtuosité ébouriffante dans les mouvements rapides, mais il y a aussi une impression d'être presque à l'opéra dans les mouvements lents et d'être très proche de cette vocalité qui est tellement vivaldienne dans ses ouvrages lyriques.
Et on est même un petit peu à l'opéra, puisqu'il y a deux invités sur ce disque, ce double disque d'ailleurs, Lucille Richardot et Delphine Gallou, deux grandes chanteuses. Le disque I colori dell'ombra qui vient de paraître, Vivaldi, Ophélie Gaillard. C'est un disque d'ailleurs qui a connu un grand succès pendant le confinement avec la dématérialisation, le numérique, le streaming. Justement, cette période-là, Ophélie Gaillard, on vous a beaucoup vu jouer pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Comment vous êtes sorti de ce moment-là, de ces semaines-là?
On a quand même été vraiment foudroyés en plein vol, parce qu'on avait toute cette tournée justement de concerts Vivaldi et on se faisait une joie de... Enfin, le moment de l'enregistrement a été une espèce de jubilation intense pendant plusieurs jours, et puis comme ça de se voir stopper en plein vol pour partager cette expérience-là avec le public, c'était douloureux, c'était difficile. Et ça l'est toujours, c'est-à-dire que la sortie du confinement dont vous parlez, comme vous le savez et vous le dites assez sur France Musique, elle est tellement progressive que parfois on a l'impression qu'on se demande si on avance en ce moment, et c'est assez angoissant, je dois dire que je crois que je partage ça avec beaucoup d'artistes, pas seulement des musiciens. On a un peu l'impression que l'angoisse monte au fur et à mesure que le déconfinement se réalise, et ça c'est quelque chose dont je pense le public a été quand même d'une façon ou d'une autre très présent, comme vous dites, sur les réseaux, et on a eu l'impression de partager quand même beaucoup de choses avec un public qui était aussi privé de concert et qu'il est toujours. Mais je crois que c'est important qu'on reste, comment dirais-je, dans une certaine solidarité par rapport à ce manque partagé, je dirais, de musique vivante, dans un spectacle vivant avec du public, parce que c'est quelque chose qui malheureusement dure un peu et va durer encore. Et je crois que bon, ça nous oblige à tous à être un peu inventifs et à aller de l'avant pour qu'on arrive à se rencontrer d'une façon ou d'une autre. Mais les modalités, les possibilités de ces rencontres, il faut en jouir pleinement quand elles sont possibles. Et il faut essayer ensemble, je crois, de les créer, parce que sinon on risque de perdre une partie de notre âme, je pense.
Ophélie Gaillard, vous enseignez également à la Haute École de Musique de Genève. Vos cours ont repris, ça se passe comment ?
Alors, toujours pas en présentiel, comme on dit.
Ah, c'est le nouveau mot.
Comme beaucoup d'universités, de hautes écoles et même de conservatoires, ce sera que pour la rentrée. Mais par contre, on a eu un très fort échange avec des expériences assez étonnantes à distance pendant toute cette période-là où je dois dire, moi, j'ai été très, très, assez préoccupée, puis aussi très sensible aux angoisses existentielles qu'un artiste et qu'un jeune artiste en herbe peut éprouver dans des moments comme ça, que moi j'ai jamais eu à éprouver à leur âge. Et déjà quand on a mon âge, on est complètement démunis. Mais alors là, l'avenir est quand même très complexe pour eux. Donc je crois que c'est aussi un moment, en tout cas moi je mets à peu près tous mes efforts en ce moment, évidemment pour faire vivre cet ensemble et pour continuer les projets, mais aussi pour essayer de prêter un peu main forte à cette génération de gens talentueux et qui en fait vont être un petit peu mis à mal pendant des mois voire plus dans cette situation. Et c'est vrai que c'est un métier extrêmement exigeant pour lequel il faut une énorme dose de passion pour y arriver, mais c'est pas les conditions les plus faciles pour des gens qui sortent maintenant des études ou qui sont jeunes professionnels. Et l'entraide est à mon avis impérieuse.
Ophélie Gaillard, Vivaldi, le disque vient de paraître. Et puis un autre disque, je voudrais qu'on se quitte avec celui-ci, paru il y a quelques mois maintenant. Moi, je l'ai découvert récemment. C'est un disque, un concert en fait, enregistré avec Toquinho, Gabriel Sivac, le compositeur. Toquinho, oui. Grand chanteur et guitariste. Votre amour de la musique brésilienne, on le connaît forcément un peu moins. Comment vous vous êtes rencontré avec ces deux musiciens brésiliens?
Ah ben, Toquinho, alors Gabriel Sivac est argentin, mais c'est un amoureux de la musique brésilienne. On s'est rencontré d'abord parce qu'il est compositeur et donc je joue aussi ses œuvres, et il y a cette passion pour la musique brésilienne qui est aussi ancienne que la mienne, je crois. Et puis Toquinho, j'ai rencontré tout simplement à São Paulo pendant une tournée. Alors, vous disiez en début d'émission que je courais. En fait, je préfère rêver, danser, chanter que courir, en fait. Et c'est vrai que cette musique-là, c'est tout ça à la fois. C'est la douceur, la beauté d'une langue qui est tellement, tellement tendre et expressive. Et puis bon, les couleurs de la guitare sont incomparables au Brésil. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. J'aime aussi beaucoup confronter une pratique plus, disons, classique de mon instrument avec des traditions populaires. Et en fait, tout au long de mes projets, j'essaye de diriger ma pratique justement par ces génies de la musique populaire au sens très noble du terme. Et vraiment, la rencontre avec Toquinho est rien que d'y penser, ça me donne le sourire et ça me fait m'évader, justement. Et cette musique brésilienne et ces musiciens brésiliens que je suis de très près aussi en ce moment, sont relativement, pour ne pas dire méchamment, mis à mal par la situation qui est vraiment très douloureuse et politiquement assez intenable. Et le contraste, je trouve, entre cette musique-là, le bonheur qu'elle suscite, l'espèce de tendresse qui vous étreint quand on entend cette musique, est vraiment tellement en porte-à-faux avec ce qu'on entend tout le temps dans les rédactions.
Eh bien, on va l'écouter, cette musique, Ophélie Gaillard, sur ce disque Canto da Sereia. C'est d'ailleurs le titre de cette plage, composée par Gabriel Sivac, argentin. On vous entend au violoncelle et vous faites même sur le disque des percussions. Merci Ophélie Gaillard, à bientôt.
Merci à vous.
Uma teia é o canto de uma sereia, um jeito bom de falar com Deus.
Canto da Sereia, la musique de Gabriel Sivac, la voix de Toquinho et le violoncelle d'Ophélie Gaillard. Un disque paru chez Aparté. Au générique ce matin, Alex Billard, Emmanuel Dupuis, Yacine Bouzard, Marion Guillemet, Taïsia Froidur et Margot Muller. Demain, avec notre invité, on parlera reprise du spectacle vivant. Ce sera Frédéric Biessy, le directeur de la Scala Paris. Voici Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. Vous aimez cette musique brésilienne, Rodolphe, je suis sûr.
Ah, comment vous l'avez
Émilie aussi. Bah, parce que je vous connais un peu.
Émilie était en train de faire la bossa nova sur le... l'ordinateur.
Voilà.
J'espère que vous avez filmé et que vous allez mettre ça sur les réseaux.
On va ouvrir l'émission avec Roméo et Juliette de Prokofiev. Histoire d'amour, de haine, de famille, de clan. Bref, beaucoup de passion dans cette émission.
Mais ça finit mal. À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.